Mon podcast sur la commode. Une émission proposée par la scène nationale de Bourg-en-Bresse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui rendent le spectacle vivant. À l'ouverture des tiroirs, Claire, Gaëlle, Julie et Lisiane. Ouvrez vos écoutilles. Laissez-vous guider. On entre dans les coulisses. Migration. C'est le thème exploré par la scène nationale de Bourg-en-Bresse d'avril à juillet 2024. C'est aussi un thème évident pour l'artiste complice de cette période, Abdelwaheb Sefsaf, tant par son histoire personnelle que par son parcours professionnel. L'enregistrement de cette interview ayant eu lieu début mai, le spectacle Ulysse de Taourirt et la soirée regard Décolonisons les arts sont déjà passés. Mais pas la présentation publique des ateliers écriture, jeux et scénographie qui s'intitule « Chronique de légendes ordinaires » et que vous pourrez voir le 6 juillet au Domaine de la Garde. Revenons à la voix d'Abdelwaheb Sefsaf. Enrhumé ce jour-là, mais toujours passionné. Et écoutons-le nous raconter ses migrations au micro de Claire.
Bonjour Abdelwaheb Sefsaf. Vous êtes auteur, chanteur, comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Nomade in France et directeur du Centre dramatique national de Sartrouville. Vos spectacles mêlent théâtre et musique pour raconter des histoires intimes traversées par les événements de la grande histoire, notamment avec Ulysse de Taourirt, présenté début mai à la scène nationale. Vous êtes l'artiste complice de la thématique migration, d'avril à juillet, l'occasion de partager quelques moments artistiques avec les habitants du territoire. En quoi cette thématique vous touche particulièrement et que proposez-vous pendant ce partenariat ?
Alors, cette thématique, elle me touche parce que je suis le fils moi-même d'immigrés algériens, vivant en France, étant né en France et vivant en France, et spécifiquement travaillant dans le domaine culturel où la question de l'identité culturelle se pose aussi. Donc voilà, ça me touche au premier chef parce que voilà, ça concerne directement mon histoire. Et qu'est-ce que je fais dans le cadre de ce parcours de complicité avec le théâtre ? On joue quatre représentations du spectacle Ulysse de Taourirt qui raconte l'histoire de mon père justement, un Ulysse venu du petit village de Taourirt. Et j'ai le plaisir de co-animer un atelier qui s'adresse à tous les amateurs, amatrices qui le souhaitent, d'écriture et de jeu autour précisément de la réécriture de mythes à partir d'éléments autobiographiques. Et il y a un travail d'écriture, c'est mis en jeu et c'est mis également en espace dans un atelier de scénographie qui lui est mené par Swat Sefsaf, qui réalise toutes mes scénographies, et en particulier celle d'Ulysse. Et c'est mis en musique, et donc il y a un atelier musique avec Malik Richeux, qui est aussi un de mes collaborateurs anciens. Voilà.
Donc plein de choses sur un temps assez court. Ouais. Vous parlez aussi, il va y avoir une soirée, une soirée de discussion, d'échange sur la décolonisation des arts. Pourquoi ce sujet, c'est vous qui l'avez choisi ?
Dans cette carte blanche, soirée regard, on a le choix d'un thème. J'ai choisi ce thème-là parce que depuis quelque temps, j'ai mis un nom sur le travail que je faisais, grâce notamment au travail d'au moins deux des invités que j'ai proposés pour cette soirée regard, Eva Doumbia et Marine Bachelon-Guyenne, parce qu'elles ont écrit vraiment sur ce sujet de la décolonisation, alors que moi, je dirais que c'est quelque chose dont je n'ai pas pris conscience tout de suite, du fait que précisément je travaillais à décoloniser les arts. Je ne l'ai pas conscientisé tout de suite. Je l'ai fait de manière instinctive en écrivant. J'avais besoin d'écrire à un certain endroit. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça participait de ce processus-là de décolonisation des esprits, en fait, en réalité. Parce que ce dont on ne se rend pas très, très compte, c'est qu'effectivement, une histoire de 132 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Ça a laissé des traces dans la littérature. Et aujourd'hui, en fait, il faut écrire des récits réparateurs, des récits qui réparent à la fois les traumatismes du passé et qui donnent une autre perspective, je dirais, dans la relation Nord-Sud.
Donc, vous écrivez, vous mettez en scène, vous participez à des cartes blanches, vous êtes sur le terrain et vous dirigez un grand théâtre. Comment vous arrivez à tout faire ?
Alors déjà, j'ai la chance de diriger un centre dramatique national et donc c'est un équipement qui est prévu pour ça. C'est vraiment fait pour... D'abord, c'est une spécificité française. Il y a 38 centres dramatiques nationaux en France et ils sont tous dirigés par des artistes. Et ces lieux, pendant 10 ans, puisque c'est la règle, on ne peut les diriger que 10 ans. Au bout de 10 ans, ça tourne. Enfin, 10 ans maximum, hein. On peut s'arrêter avant. Mais 10 ans maximum, l'outil est mis à la disposition d'un créateur, d'une créatrice, pour lui permettre justement de donner plus d'écho encore, je dirais, à son travail. Un outil qui est un outil parfois de fabrication dans tous les sens du terme, parce que c'est un outil où on peut produire les spectacles, mais aussi on peut les fabriquer. Il y a 27 CDN qui sont équipés d'ateliers décors, par exemple les costumes. Donc c'est des grandes maisons, voilà, on peut s'adonner vraiment à la création. Après, oui, j'avoue que moi qui ai eu l'habitude de travailler en compagnie, où on avait deux permanents, là subitement, il y a 45 salariés, ça fait vraiment beaucoup. Il faut apprendre, il faut changer faut changer d'algorithme, quoi. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. Mais c'est passionnant parce que c'est la première fois que j'ai autant de personnes au service de mon projet finalement. Donc c'est assez passionnant. Il faut arriver par contre à faire rêver, il faut arriver à partager ce projet, il faut arriver à faire en sorte que chacun voilà, ait envie de le défendre. Donc moi j'ai la chance d'avoir une équipe très enthousiaste, j'en suis ravi. Et puis j'essaie de, évidemment au premier degré, de partager le projet en faisant voir les spectacles, mais aussi en essayant d'intéresser à quel est mon projet, justement, quelles sont mes ambitions, pour la notion d'écriture de nouveaux récits, pourquoi c'est important. J'essaie de partager cette idée-là. Alors, je le fais pour moi-même, j'écris des nouveaux récits, mais j'ai aussi des artistes associés au théâtre, qui, eux aussi, sont des autrices, auteurs, metteuses, metteurs en scène, qui écrivent des nouveaux récits, parce que je crois que voilà, il y a besoin qu'on écrive ce répertoire de demain, finalement.
Et pour finir, quelques questions sur vos migrations. On ne sort pas de nos migrations. Vos migrations à vous, vos trajectoires plus personnelles, vos migrations familiales, d'où venez-vous? Où sont vos racines?
Alors, les migrations familiales, ben, mon papa et ma maman sont du même endroit, du même village, petit village de Taourirt. Dans l'est de l'Algérie, petite Kabylie, ce qu'on appelle la petite Kabylie. En Algérie, il y a la grande et la petite Kabylie. Donc voilà, je viens de là et quelque part, j'ai l'impression de venir plus, je dirais presque, de Saint-Étienne. Parce que moi, je suis né à Saint-Étienne et que ma culture, elle est vraiment stéphanoise. Voilà, j'ai vécu dans un quartier très animé de la banlieue de Saint-Étienne. C'est à la fois ça, mes origines. Et l'origine de mes parents qui sont des immigrés algériens. Ouais.
Et vos migrations personnelles à vous, votre cheminement, est-ce qu'il y a des endroits où vous avez des ancrages, donc Saint-Étienne, a priori?
Ouais, Saint-Étienne, c'est une ville qui m'est chère, j'avoue. Après, moi, j'ai eu très vite. C'est marrant parce que c'est une ville qui donne aussi envie de partir quand on est jeune. On a envie Donc, très vite, je suis parti à Montpellier d'abord. Je suis parti à Toulouse. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Toulouse. Plusieurs fois, j'ai voulu me réinstaller à Toulouse. Ça s'est pas fait. Je me suis installé à Paris aussi. Parce que mon jeune comédien, je voulais faire du cinéma, donc je passais les castings à Paris. Et puis j'ai découvert un jour deux endroits extraordinaires que sont la Bretagne et le Québec. Et j'ai vraiment, moi, eu un gros coup de cœur pour le Québec. J'ai voulu m'installer au Québec et c'est mon épouse qui n'a pas voulu. Donc voilà, c'est une déception parce que vraiment c'est un endroit où j'aurais aimé, je sais pas, ça aurait peut-être pas duré, mais en tout cas j'avais envie de faire un bout de chemin là-bas. Et puis par contre, je me console avec la Bretagne qui est vraiment pour moi ma région de cœur où on adore passer nos vacances. Enfin, je sais pas, j'ai eu je sais pas comment dire, des fois on se sent en résonance avec un territoire et la Bretagne, voilà, c'est un territoire qui me parle énormément. J'adore ce coin.
Et plus de façon plus intime ou intérieure, est-ce que votre vision du monde, vos migrations cérébrales, je sais pas, du monde et de vous-même, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce que vous avez migré d'un point A à un point B ou est-ce que vous restez fidèle à...
Non, j'ai bougé de l'intérieur. Je pense que j'ai bougé en étant traversé aussi par la poésie des autres. J'ai eu la chance de travailler longtemps un auteur palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui est un grand auteur humaniste qui m'a bouleversé. J'ai joué son texte tellement de fois. J'ai fait plus de 170 représentations du spectacle Comment passeras-tu, qui était vraiment un texte autour, un spectacle autour des textes de Darwish, que ça m'a vraiment labouré de l'intérieur. Il y a eu avant, pour moi, un avant et un après. Et après, je me suis rendu compte aussi que, en tant qu'artiste, on passe son temps à un peu tracer son chemin. On apprend à mieux se connaître, quoi. On se révèle de plus en plus. Il y a une jeune fille tout à l'heure à une rencontre qui me demandait, qui veut être comédienne, et qui me demandait si j'avais un conseil à lui donner. Ben, je lui disais pour se distinguer des autres. Et je lui disais, pour moi, le seul conseil que je puisse te donner pour te distinguer des autres candidats, parce qu'elle veut passer des écoles, concours pour les écoles, je lui disais, c'est de rester toi-même et d'affirmer profondément, de creuser ton identité et de rester toi-même et affirmer ça. C'est ça qui te singularisera. Et moi, j'ai l'impression que si finalement j'ai changé, c'est dans le fait que jeune, on veut plaire aux autres et on est prêt à donner l'apparence qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on. On essaie de ressembler à son environnement pour plaire aux autres. Et avec le temps, j'ai appris à affirmer l'être que je suis réellement, sincèrement. J'essaie d'être le plus sincère là-dedans. Et je crois que c'est ça qui fait que, ben, justement, je me sens de plus en plus à ma place. Et aussi que le spectre des gens que je rencontre et qui m'accueillent et qui s'élargit aussi à mesure que je m'affirme. Voilà. Enfin, pas de manière prétentieuse, mais où j'affirme qui je suis vraiment. Voilà, c'est tout. J'essaie de tricher le moins possible dans mon écriture, dans mon jeu d'acteur aussi. J'essaie de pas composer. Il y a des techniques où on amplifie ce qu'on est. Oui, un acteur, il est lui-même amplifié. Mais voilà, j'essaie d'être. C'est ma quête, ça. Voilà, c'est ma seule quête.
Merci Abdel.
Merci.
À la scène nationale, il y a des scènes, mais pas que. Des spectacles, mais pas que. L'exposition « De nuages en orage » par la photographe Lauriane Galtier est présentée dans le hall et le Bartok du théâtre depuis le 4 mai et jusqu'à la fin juin. Globe-trotteuse et passionnée des coups de foudre, Lauriane Galtier s'est faite connaître à l'international grâce à ses photos d'orage qui ont fait régulièrement la une des médias, journaux et télévisés. Impossible donc de manquer l'occasion de l'interviewer. C'est au Bartok, autour d'un café, qu'elle livre les coulisses de son métier à Lisiane.
Ce que c'est exactement être une chasseuse d'orage?
Le mot chasseuse, on va l'enlever.
Traqueuse?
Plutôt mettre plutôt traqueuse.
Traqueuse d'orage.
Je trouve que c'est plus intéressant ce mot-là, tu sais. Parce que chasseuse, on se croirait un peu à la chasse au gibier, tu sais. Donc là, non, je dirais plutôt traquer parce qu'on va on va traquer. Non. Avec un caméscope, un appareil photo, ou même pour le plaisir, donc d'aller se rapprocher d'un orage qui est en formation et en cours de formation. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par ça. Moi, la première, du coup, depuis toute petite, je suis fascinée par les phénomènes météorologiques en tout genre. Hein. Mais c'est vrai que les orages, c'est quand même mystique. C'est quelque chose qui est mystique. On ne connaît pas tout encore au niveau de la science sur les orages et, là, et du coup la foudre. Et c'est vrai que au début, tu y vas à tâtons. Tu prends ma voiture, on va dire. Pour ne pas dire que j'étais en scooter avant, tu vois, mais je prends ma voiture. Et du coup, tu vas commencer à courir un petit peu après, à t'approcher au plus près possible de l'orage. Donc, tu commences comme ça. En plus, moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, tu sais, en 1996-97. Bon, mais tu n'avais que la télé, quoi. Donc, tu regardais la 1, tu sais, ou la 2, et puis tu voyais à peu près les prévisions du météorologue, et puis tu vois, allez, tu vas y aller derrière, quoi, tu vas courir un peu. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, tu vois. Puis, au fur et à mesure, après, tu évolues, tu achètes ton premier appareil photo. Alors, tu connais rien en appareil photo, alors tu essaies de chercher des réglages, ça va pas, tu vas chez le photographe, c'est une catastrophe. D'ailleurs, tu verras jamais mes photos de 2008 et de 2010 et de 2011, parce qu'on va dire à partir de 2014, mais 2013-2014, déjà, je commençais à sortir des trucs sympas. Voilà, après, t'as des gens qui veulent, on va dire, pas médiatiser leur passion. Moi, c'est une passion que j'ai voulu un petit peu médiatiser. Puis après, t'as les médias qui sont un petit peu intéressés. Ouais. Puis après, tu perfectionnes aussi ton art. Tu as deux types de photographes. T'as ceux qui photographient en JPEG, c'est-à-dire que c'est le boîtier qui s'occupe, on va dire, de numériser la photo. Okay. Donc, la personne va appuyer, mais la photo sera déjà traitée par l'appareil photo. Et t'as le fichier NEF. Pour Nikon, par exemple, donc qui est l'équivalent du RAW, donc qui est le RAW. Le RAW, c'est l'équivalent du négatif de l'argentique.
D'accord.
Donc en fait, ta photo, tu vas la prendre avec le boîtier, elle est toute sombre, toute pas belle, et du coup, tu fais un logiciel de post-traitement pour la mettre en valeur et la passer en JPEG pour qu'elle soit exploitable sur les réseaux sociaux ou par l'imprimeur. Voilà. Donc après, du coup, tu apprends à faire de la photo, tu apprends à faire de la post-prod, donc il faut acheter après un ordinateur, tu apprends ce que c'est une colorimétrie, mais la photo, c'est quand même la finalité de la traque aux orages. La traque aux orages, avant tout, c'est avoir un minimum de connaissances en météorologie. Ouais. Ça, c'est hyper méga important. C'est pour ça que d'ailleurs, je déconseille aux gens qui sont amateurs, qui n'ont aucune connaissance, d'aller courir derrière un orage. Et les gens sont vraiment imprudents, c'est un peu le problème. Donc du coup, un orage, c'est pas que les logiciels météo, en fait. C'est-à-dire que tu fais une prévision déjà à 4 jours. Donc au-delà de la France, tu prends à peu près sur l'Europe.
Okay.
Et là, tu vas regarder les anticyclones, les dépressions, le mouvement. Donc tu vas voir un petit peu l'évolution, si ça va se dégrader ou pas. En fonction de ça, tu suis. Imaginons que là, dans 3 jours, voilà, il y a une dégradation qui est envisagée par le sud de la France, dans tout ce qui est instabilité, tout ça. Donc après, plus tu rapproches de l'échéance, une fois que tu commences vraiment à faire ta prévision, tu commences à faire un zonage. Là, je sais que dans 48 heures, on va dire, par exemple, il y aura un orage localisé vers le massif des Cévennes. Et tu te fais, on va dire, un petit maillage de 50 à 80 km. Et tu sais à peu près que ça va tomber, on va dire, au nord d'Alès. Voilà, Alès. Donc tu réduis, tu commences déjà à préparer ta route. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut préparer son chemin, c'est-à-dire ton cheminement. Il faut préparer des points de vue. Donc soit tu... Alors moi, ce que je fais, 8 ou 9 mois avant, je vais repérer mes points de vue. Comme ça, une fois que j'ai marqué tous mes points de vue, je sais déjà où je vais. Au tout début, je courais derrière, donc je m'en fichais un peu des lieux. Maintenant, vu que je cible, donc du coup, au lieu de courir après les orages, maintenant je cible. Alors si par exemple, j'ai une chapelle qui m'intéresse, qui est sur un point haut, je vais cibler du coup le zonage de la chapelle, la route pour y aller, est-ce que c'est accessible, carrossable. Donc du coup, après, tu prépares sur ton véhicule aussi, pour que ton véhicule soit en état de marche, ton plein. Et moi, ce que je fais, quand je vais aller faire mon zonage orage, je repère tous les endroits pour manger, pour dormir au cas où s'il y a besoin, pour mettre de l'essence pour le suivi orageux.
Bien sûr.
Et surtout des chemins de repli. Ouais. Ça évite que si je suis prise dans l'orage et que ça tourne vraiment pas bon, un orage par exemple, s'il est prévu qu'il va y avoir, on va dire, un orage d'une moyenne dimension, des fois les prévisions, ça reste de la prévision. Donc il peut y avoir des erreurs et ça peut s'étaler en multicellulaire, c'est-à-dire en plusieurs cellules, des amas multicellulaires qui vont se former et du coup tu peux te retrouver toi au milieu bloqué. Tu ne sais jamais à l'avance en fait la dangerosité d'un orage. Voilà. C'est beaucoup d'anticipation. Pour au final, une photo qui, tu vois, pour faire peut-être 1000 déclenchements, mais tu vas garder 2-3 photos quoi, sur tes 1000 déclenchements. Donc du coup, tu as beaucoup de préparation en amont, si tu ne veux pas te mettre en danger. Et après, au niveau de l'exposition, soit des fois j'ai des abris, ça peut arriver, si j'ai un abri naturel, c'est top. Ou sinon, ce que je fais, je gravite autour de mon véhicule. Mais je suis toujours autour du véhicule, je ne m'éloigne pas de la voiture. Parce que la foudre, ça peut aller loin. Mais il faut être à bonne distance, mais pas trop près ni trop loin, et avoir un suivi permanent. Et c'est là où tu peux essayer de choper de super photos quoi, après. Et avec, bien sûr, toujours pareil, construire son paysage en avant-plan, ce qui est super important.
Ouais.
Donc ça peut être des ballots de paille, un champ de colza, ça peut être un bâtiment, vraiment le paysage avant tout, avec le phénomène météorologique derrière qui agrémente en fait. Après, t'as des gros loupés aussi. Moi, une fois, j'étais au pont du Gard, à 5h du matin, il y a un orage isolé tout seul qui passe devant, il lâche de la foudre qui tombe derrière le pont du Gard. Et en fait, j'avais branché l'appareil photo, j'avais tout mis. Et la foudre, elle tombe. Et en fait, j'avais oublié d'enlever le cache plastique. Et là, tu dis, j'ai oublié d'enlever le cache de mon objectif.
Ça peut même arriver au pro, alors, c'est ça que tu nous dis.
Ouais, je crois que là, il y a un moment donné où tu te dis, bon...
Qu'est-ce que toi, tu recherches le plus dans ces phénomènes?
Ça peut être la foudre. La foudre, c'est un élément qui vient se rajouter, en fait, à la photo. Mais j'aime bien les structures nuageuses.
Okay.
Des fois, tu as des structures qui sont complètement folles. Tu te crois aux USA, des fois, alors tu es en France. Puis, cette ambiance de lourdeur, tu sais, de... Mais ça c'est magnifique en cliché. Après, ça la faudra en plus, encore mieux. Mais des fois, il ne faut pas trop non plus. Parce qu'on est toujours en train de se dire il faut faire plus. Mais en fait, non, des fois, il faut se contenter de ce que la nature nous donne. En fait, la photo d'orage, c'est un tout. C'est pas que la foudre, c'est un tout.
Mais du coup, c'est intéressant, tu nous parles aussi donc, du matériel.
Ouais.
C'est quoi ton... Alors, à part ta voiture, c'est quoi ton matériel quand tu pars à la traque des orages? C'est quoi
matériel. Un peu... Alors, hormis bien sûr les affaires de rechange, tout ça, couverture de survie, tous ces trucs-là. Une frontale, bien sûr, un trépied, alors lourd si possible. Les boîtiers d'appareils photo, ben, moi par exemple je suis chez Nikon. Après, un objectif, moi c'est des objectifs qui ouvrent énormément en fait, qui sont très lumineux,
ouais.
Et surtout à grande focale. Du coup, tu as une dynamique de plan qui est bien évidemment augmentée, ça te permet de rentrer un peu dans ton paysage, tu vois. Ça c'est super intéressant.
Okay.
Et après, la journée, j'ai ce qui s'appelle une cellule de détection. Qui en fait c'est un capteur, tu sais, photosensible, qui va détecter une variation de lumière sur une portée, je crois, de 50 km à peu près. Et du coup, ça va envoyer une impulsion à ton boîtier qui, lui, déjà est pré-réglé manuellement sur une vitesse de rafale haute. Et tu auras une vitesse de 3 photos à peu près. Et en fait, ça va déclencher ton appareil photo. Ça va faire bip bip bip. Il va déclencher une rafale. Et sur la rafale, eh ben, tu as l'éclair qui doit s'imprimer. Alors, c'est pas une science exacte. En fonction de la vitesse de l'éclair, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Ou des fois, il s'intercale entre la deuxième et la troisième rafale ou la première et la deuxième. En fait, il n'y a pas de règle. Dans la photographie d'orage, je pars du principe, il y a zéro règle. C'est comme je dis, si sur ta photo, tu as une tornade ou ce que tu veux, si tu veux y mettre 3 moutons dessus, tu rajoutes 3 moutons. Tant que tu restes toi-même la propriétaire intellectuelle de tes photographies, t'en fais ce que tu veux. Après, c'est un goût de tout à chacun, quoi, en fait.
Et du coup, quand comment tu mets en valeur, comment tu retravailles tes photos? Est-ce que tu les retravailles déjà?
Ah oui, je suis obligé. Moi, je photographie en fichier RAW, donc du coup, en valeur native. Donc moi, quand ma photo elle sort, elle est toute pourrie. Il y a un trait, il n'y a pas de paysage, il fait noir. Et du coup, quand tu rentres sur ton logiciel, moi je prends Photoshop, ça me permet après d'aller au plus profond de la photo. Et du coup, je peux déboucher mes noirs, faire ressortir mon premier plan. Et ça me permet d'avoir une photo qui se rapproche de la réalité, quoi, en fait. Mais qui est vraiment beaucoup plus lumineuse que ce que toi, tu peux voir avec tes yeux ou que l'appareil photo, il voit, quoi. Mais voilà. Après, c'est une photo que tu vas traiter toi-même, que tu vas post-prod. Après, maintenant, je sais qu'il y a de l'IA, il y a plein de trucs. Ouais, moi, l'IA générative, c'est pas trop mon truc. Puis je préfère, moi, gérer ce que j'ai à faire et rester au plus près de la réalité. Parce qu'en expo, ils te demandent souvent les fichiers RAW.
Ouais.
Et après ton post-traitement. Donc après tu as des règles à respecter en exposition photo. Donc ta photo tu vas faire une post-prod, mais il faut qu'elle reste dans le même schéma que l'original.
Tout à l'heure tu nous disais quand tu vas vers les orages, quand tu es vraiment en situation très très proche, tu as une sensation d'adrénaline.
Je l'ai toujours, hein, même au bout d'un temps d'années. Dire que t'as pas peur, c'est mentir, parce que tu as toujours un doute. Et tant mieux, parce que c'est le doute qui te permet de te mettre en sécurité.
Quelle émotion t'as et qu'est-ce que tu recherches quand tu vas, aussi en termes de sensations, peut-être quand tu vas au plus près des
orages? Alors,
moi,
ce qui était marrant, je vais te rappeler une anecdote. C'était il y a 48 heures, j'étais à Paris. J'arrive tôt à 18 heures, j'arrive à me garer place du Trocadéro. Je commence à m'avancer, il y avait un monde. C'était noir de monde. Et moi, j'étais contre pied, je me suis dit, punaise, comment je vais faire des photos? C'est pas possible, quoi. Il y a trop de monde. Alors, du coup, je commence à m'installer à 21h, l'orage commence à arriver. Il pleuvait des trombes. Hein. Puis à un moment donné, à 22h42 exactement, t'entends tchic tchic. Et là, t'as une foudre qui vient taper le paratonnerre de la Tour Eiffel. Puis j'entends les gens, ouais, tout le monde applaudissait, tu sais. Et là, tu te dis, mais l'adrénaline que j'ai, ils l'ont aussi, quoi, en fait. Parce que j'étais sur un bac à fleurs avec mon trépied, du coup, je surplombais tout le monde, en fait, sur la place du Trocadéro. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est une expérience à vivre quand même, t'es sous la flotte. Et t'as 300 ou 400 personnes qui sont là en train de t'applaudir et tout.
Dans ton interview, la dernière que j'avais regardée, tu parlais. Au-delà de l'aspect artistique, beaucoup de pédagogie. C'était très important pour toi que les gens puissent mieux comprendre ces phénomènes météorologiques, oui. etc. Pourquoi ça te touche autant? Pourquoi c'est autant important pour toi d'amener de la pédagogie dans tes expositions ou dans ton livre?
Parce que j'ai vu en fait tellement de gens rigoler. Même sur Expo, je voyais des gens, oh bah oui, mais c'est trac aux orages, bof. Ils minimisent tout en fait. Pour eux, c'est on appuie sur un bouton et puis on fait la chasse aux éclairs, c'est marrant, c'est rigolo. C'est pas ça. Les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend, de la recherche qu'il y a en amont, tout ça pour la finalité de la photo. C'est pas juste un plus sur un bouton. Les gens n'ont pas conscience de la dangerosité de ce phénomène météorologique. Et puis en ce moment, on est dans un contexte de changement climatique aussi. La température, elle monte. Alors après, plus d'orages, je dirais peut-être pas plus d'orages, mais plus gros, mieux organisé et plus puissant, oui.
Ouais. Et ma dernière question, c'est, tu m'en as déjà parlé un peu en off, mais du coup, c'est tes prochains projets. Dire un petit peu ce que tu vas faire. Est-ce que c'est possible de nous en parler ou pas? Tu nous parlais des monuments historiques. Est-ce que tu peux nous
Alors ouais, j'ai un projet que j'ai attaqué déjà il y a un an, que je compte mettre à terme en 2026, qui sera aussi peut-être dans mon prochain bouquin. Et du coup, j'ai décidé de m'attaquer donc aux monuments français qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Et du coup, je vais essayer de faire une exposition de 15 photos, voire 20 photos, si j'arrive à avoir ces 20 monuments avec la foudre. En 2025, j'ai une nouvelle expo qui va tourner, qui s'appelle, je donne le titre, donc le nuage lenticulaire de l'Aubrac. Donc c'est une expo que j'avais présentée en 2019, une seule fois, dans un festival en Lozère. Depuis, je l'ai tombé aux oubliettes, et en fait, là, je vais la ressortir remasterisée, et je suis tombé sur un nuage en forme de soucoupe volante, tu vois, ce que tu vois des fois l'hiver, et j'ai suivi ce nuage, en gros, c'est moi qui ai gravité autour, et je l'ai suivi de sa naissance à 15h30 à peu près, de l'après-midi jusqu'à 18h, sa mort. En plein hiver, par moins 15, tu vois, sur les plateaux de l'Aubrac.
C'est incroyable.
Et du coup, j'ai fini mes photos sur un lac gelé, donc le lac de Borne, et c'est juste ahurissant.
Eh bien, merci beaucoup, Lauriane, pour ce partage. On te retrouve bientôt avec toutes ces nouvelles expositions et également dans le hall du théâtre jusqu'à la fin du quadrimestre sur les migrations. Merci à toi.
Et vous alors, comment vivez-vous le spectacle ? Le festival Brin de Cirque fête cette année ses 25 ans. Ce festival est organisé par l'ETAC, École des techniques et arts du cirque à Bourg-en-Bresse, qui œuvre depuis 30 ans sur Bourg-et-Lin pour faire découvrir cet art au plus grand nombre. C'est aussi une des missions de la scène nationale, qui participe régulièrement au festival en proposant des spectacles, de l'aide logistique, un soutien en communication. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons laissé traîner notre micro sur les arrières de Brou, pour entendre celles et ceux qui le vivent, fidèles, spectateurs de passage ou venus de loin pour l'occasion.
Donc là, je me suis posée dans la pelouse, je me laisse porter par les différents sons, les ambiances, et c'est juste magique, quoi. Moi, j'adore ces ambiances-là.
Beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, de volonté, de féerie, pour que l'événement soit féerique.
Il y a de la bonne humeur qui rayonne, même quand il fait pas beau, ben, il y a au moins la bonne humeur qui apporte les rayons du soleil. Voilà, c'est un festival immanquable qui rythme un petit peu le printemps, ça donne le tempo du printemps à Bourg-en-Bresse.
Alors pour moi, Brin de Cirque, c'est vraiment un retour à l'enfance finalement, au burlesque, à l'absurde, où on est vraiment entre ce schéma de réalité et de fiction, où on est entouré de personnes vraiment totalement épanouies dans ce qu'elles font, très passionnées et surtout très douées, et c'est un véritable enchantement que d'être ici.
C'est super agréable, moi je découvre un peu le cirque, l'ambiance est calme, c'est très serein, il y a un côté familial qui est vraiment très agréable.
Je trouve que c'est une ambiance très familiale et conviviale, accueillante, voilà, ça fait plaisir justement de voir tous ces enfants partout là qui s'amusent.
Très chaleureux, à la fois le contenu des spectacles, le contenu de tous les ateliers aussi, c'est très diversifié, donc c'est très agréable de passer une journée ici. En plus, nous ne sommes pas d'ici, on est venus exprès. Voilà, on ne savait pas trop quoi faire de ce long week-end qui s'annonçait pluvieux et finalement on est venu dans l'Ain avec joie. On s'est retrouvé avec des amis et c'est une très belle découverte, donc merci beaucoup.
Et là, du coup, nous sommes en plein apprentissage de jonglage, ce qui n'est pas simple du tout. Mais au moins, on se marre. On voit qu'il y en a dans la famille qui sont un peu plus doués que les autres.
On se sent tellement bien qu'en fait, ça fait deux jours qu'on est là et qu'on n'a pas envie d'en partir.
C'est la fin de ce podcast, mais pas celle de la thématique migration. Il reste encore, en juin et juillet, des spectacles, des rencontres, des ateliers, des histoires à goûter et une soirée regard. Bref, tant de choses à vous raconter pour le prochain podcast de la scène nationale. Mais le mieux, c'est tout de même que vous les viviez pour de vrai. Et pour toutes nos actualités, rendez-vous sur la toile www.théâtre-bourg.fr, Facebook et Instagram.